Barbu. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Donald Trump a été acquitté lors de son procès en destitution. L'ancien président était accusé d'avoir attisé la révolte lors de l'attaque du Capitole qui s'est déroulée début janvier. 57 sénateurs ont voté pour sa condamnation, mais il fallait 67 voix. Joe Biden a indiqué que malgré l'acquittement, le fond de l'accusation n'était pas contesté. Il appelle les Américains à défendre la démocratie qui reste fragile. Pas de fin de pandémie sans accès équitable aux vaccins, c'est ce qu'ont indiqué des experts hier. Dans une lettre ouverte publiée dans la revue The Lancet, ils sont plusieurs à expliquer que l'accumulation des doses de vaccins dans les pays les plus riches risque de prolonger la crise sanitaire. Covid toujours, la Suède change de stratégie. Le pays a subi de plein fouet la deuxième vague de contamination et en redoute une troisième dans les semaines à venir. Le port du masque est recommandé. Dans les transports en commun, les policiers peuvent verbaliser les personnes qui ne respectent pas la distanciation sociale. Les cinémas sont fermés, mais les salles de sport privées restent ouvertes. En France, de nouveaux éléments dans l'affaire Delphine Jubilard. Le couple se serait disputé le soir de la disparition de la jeune femme. Cette mère de famille, âgée de 33 ans, a disparu le 16 décembre dernier. Cette piste est prise très au sérieux par les enquêteurs. Sport, Gilles Moreton est le nouveau patron de la Fédération française de tennis. Il a été élu, battant ainsi Bernard Giudicelli, qui n'aura eu qu'un seul mandat de 4 ans. Gilles Moreton est un ancien tennisman professionnel. En 2020, la fédération a enregistré une baisse de 80 à 100 millions d'euros de ses recettes à cause de la crise sanitaire. Divertissement pour terminer, plus de 95 millions de personnes sont abonnées à Disney+ dans le monde. En comparaison, Netflix a passé la barre des 200 millions d'utilisateurs.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Rambouillet, le commissariat et le centre hospitalier de la ville ont signé jeudi dernier une convention pour faciliter le dépôt de plaintes des victimes de violences intrafamiliales. Il s'agit surtout pour les deux structures de faciliter le dépôt des plaintes des femmes victimes de violences au sein de leur foyer pour les encourager à ne pas se taire. Les deux établissements ont signé cette convention officialisant leur partenariat. À Jouarre-Pontchartrain, jeudi, la municipalité a eu connaissance de deux élèves dans les classes de CE1 et CE2 du groupe scolaire, positifs aux variants anglais du Covid. Une cellule de crise a été mise en place pour dérouler les mesures sanitaires et pour éviter la propagation de ce virus. Les trois classes concernées ont été fermées sur décision de l'inspection académique et les enfants malades sont restés à l'isolement. Des enseignantes ont exercé leur droit de retrait et ont été remplacées. La mairie a également sollicité la cellule territoriale Covid de Naufle-Jouarre pour organiser une campagne de tests PCR au foyer rural jeudi après-midi et vendredi matin, concernant uniquement les personnes ayant été en contact avec les enfants positifs. Dans un tout autre registre, les communes décident d'utiliser l'application Iliwap pour communiquer avec leurs habitants. Orsemont, Hermeret, mais également Saint-Léger en Yvelines sont en train de tester cette application sur laquelle déjà vous retrouvez la mairie de Vieille-Église en Yvelines, d'Auffargie et bien d'autres. On va parler de la réunion du conseil départemental qui a eu lieu le 5 février dernier. Il faut savoir que les commerces font partie des principales victimes de la crise sanitaire impactée par les deux confinements. Leurs finances et leurs activités sont de plus en plus en danger. Ils sont pourtant un rouage essentiel de l'économie du territoire. C'est pourquoi le département a décidé de voter une aide pour les soutenir. Il y avait déjà eu une aide exceptionnelle votée en mai 2020. Mais face à une fin d'année 2020 catastrophique marquée par le deuxième confinement très dur pour les commerces, une deuxième phase du dispositif d'aide a été votée vendredi 5 février dernier par le conseil départemental avec une enveloppe de 15 millions d'euros. Les Yvelines renforcent leur soutien auprès des commerces et artisans, une aide ouverte à l'ensemble des communes du territoire qui devront elles-mêmes faire appel au département, ce dernier n'ayant plus la compétence d'intervenir directement sur le développement économique du territoire suite à la loi NOTRe. Le financement peut aller jusqu'à 10 000 euros par établissement en fonction de la nature de l'activité et de la durée d'interdiction d'accueillir du public. Pour cela, les commerces éligibles doivent être inscrits au registre du commerce, recevoir du public, être titulaire d'un bail commercial et accueillir moins de 20 salariés. Pour les commerces éligibles, les activités de restauration de débit de boissons et ou d'hôtellerie sont en première ligne, au même titre que les activités commerciales et touristiques, sportives ou culturelles qui ont cessé toute activité depuis plusieurs mois. Plus d'informations sur le site yveline-info.fr. La météo pour ce dimanche, c'est ce matin quelques passages nuageux et des éclaircies avec moins 1 degré. Et puis dans l'après-midi, un ciel voilé 3 degrés. Dans la soirée, toujours un ciel voilé et 2 degrés. Et la nuit prochaine sera très nuageuse avec 2 degrés. Lundi matin, vous réveillerez avec une couverture nuageuse importante, des pluies éparses et 5 degrés. Merci d'avoir suivi ce flash. Poursuite des programmes sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, en ce dimanche 14 février. Eh bien, ce matin, on va être très, très triathlon avec nos invités. Il vient de Limoux, on l'aura comme invité principal dans cette émission. C'est Frédéric Maury, que je salue. Frédéric, bonjour.
Bonjour à vous.
Voilà, le hasard a fait que en 7 jours de Saint-Valentin, on respectera la parité. Et puis on aura tout à l'heure une ancienne championne de roller, Caroline Lagray, qu'on a retrouvée, qui avait arrêté la compétition. Bah, on l'aura au téléphone tout à l'heure parce qu'elle s'est reconvertie dans le triathlon. Et puis on reviendra sur la semaine olympique et paralympique qui s'est déroulée la semaine passée, du 1er au 5 février. On a ramené toute une série d'interviews. On complétera donc cette couverture faite à l'occasion de cette semaine olympique et paralympique avec donc cette série d'interviews. Frédéric, tout d'abord, le sport, c'est pour vous, c'est un leitmotiv, ça fait partie du quotidien, c'est incontournable de ne pas faire de sport au moins une fois par jour.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, je me considère vraiment comme un sportif parce que j'ai besoin du sport. Et puis, je reconnais que le sport a des valeurs qu'il faut pérenniser, qu'il faut entretenir. Moi, j'ai toujours pratiqué, j'en ai toujours eu besoin. Et puis, j'essaie de véhiculer un petit peu ces valeurs-là. Vive le sport.
Ouais. Alors, vous avez commencé par la course à pied. Vous aviez 14 ans.
Oui, j'ai commencé le cross, le demi-fond. À l'âge de 13-14 ans, effectivement, donc dans un club à Massy, pas très loin d'ici. Mm-hmm. Et ensuite, c'était l'an 91, et donc j'ai fait des crosses et du demi-fond sur piste, essentiellement, dans ma première partie.
Voilà. D'accord. Et bon, on va pouvoir rentrer en profondeur, mais pourquoi le triathlon? C'est arrivé comment?
Alors, sur le tard, en fait, aux alentours de j'avais à peu près une quarantaine d'années, peut-être un peu moins. J'ai des amis dont un qui nageait une fois par semaine, qui m'a dit bien nager. Alors je savais nager, je suis prof de PS, je sais nager.
Ah d'accord, ouais,
mais il n'empêche que je nageais jamais que l'été à la plage. Et donc j'y suis allé avec lui et puis j'ai trouvé ça assez sympa. On y retournait assez régulièrement. Et puis j'ai un autre ami qui lui faisait que du vélo de route que je ne connaissais pas, donc j'avais pas de vélo de route et il m'a fait découvrir ça. Un dimanche, puis un deuxième dimanche, et puis on a commencé à faire 50, 60, 80 kilomètres, et puis j'ai vraiment apprécié le fait de rouler en groupe, parce que les sensations sont
Ah oui, c'est sûr. Faut bien s'abriter.
Puis il y a la sensation de vitesse.
Faut bien sûr.
La sensation de vitesse qui est assez nouvelle, qui était assez nouvelle pour moi. Et j'ai trouvé ça très, très agréable. Et de fil en aiguille, un de ces amis-là qui voulait faire un triathlon, eh bien, on s'est dit, allons-y, alors, on va le faire ensemble, et ça sera, un moment à partager, et c'était vraiment le cas. Et en fait, lorsqu'on s'inscrit à un triathlon, il faut absolument avoir une licence, oui. Parce que sinon on doit payer des assurances et ça coûte excessivement cher. Donc on avait fait le calcul pour s'inscrire à un triathlon, autant prendre une licence puisqu'on fait deux triathlons dans l'année et on a remboursé sa licence. Mm-hmm. Donc on n'a pas hésité, on s'est dit on va prendre une licence et je suis retourné sur le club d'origine, oui. Dès l'an 91 à Palaiso au départ. D'accord. Et donc j'ai dû avoir à peu près 40-41 ans quand j'ai commencé le triathlon.
Et aujourd'hui, vous êtes au club d'Orsay. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clubs dans l'Essonne, contrairement à notre département où il faut aller sur Saint-Quentin.
Oui, c'est un sport en voie de développement. Mmh. On en voit de plus en plus. Non seulement les épreuves se diversifient, ça touche tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. C'est ça l'avantage dans le triathlon. Et oui, quasiment, il y a des clubs tous les 10 kilomètres, on trouve un club. Alors maintenant, on trouve pas toutes les piscines toutes les 10 kilomètres.
Oui,
malheureusement,
c'est
un vrai problème. Ouais. Mais par contre, oui, des clubs, il y en a de plus en plus, oui. Mmh,
très bien. Donc, je l'ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet au cours de cette émission. Comme vous êtes justement prof d'éducation physique, ça tombe bien, ça va faire le lien avec cette semaine olympique et paralympique dont on avait parlé il y a 15 jours avec Michel Godard, le directeur du CREPS d'Île-de-France qui était à ce micro. Est-ce que vous pensez que la France est un pays sportif?
Alors, il faudrait comparer avec. Pour répondre à cette question, il faut comparer avec les autres pays.
Oui.
Je sais que.
Oui, mais justement, par rapport à l'Allemagne, l'Angleterre, alors, où justement, on dit qu'il y a un système scolaire qui favorise le sport.
Alors, On en parlait tout à l'heure hors antenne, s'il y a 50%, si on souhaiterait que 50% des Français pratiquent d'une manière, on va dire, assez régulièrement une activité, quelle qu'elle soit, je pense qu'on n'y est pas du tout. Mais après, est-ce qu'on est vraiment un pays sportif? En tout cas, je pense qu'on aime au moins le voir. C'est déjà une bonne chose. Parce que le sport, il n'y a pas que la pratique, il y a aussi le voir, le ressentir, et on l'apprécie de différentes manières. Mais il est vrai que, pourtant les structures elles sont là, mais c'est un peu dans les mentalités, puis dans l'évolution de la société qui fait que, bien, on est aussi au chaud chez soi, et puis on a les tablettes, il y a tout.
Parce que le sport c'est pas que la compétition, c'est aussi le sport de loisir, hein, qu'on peut pratiquer de façon assidue.
C'est justement ça. Moi, en tant que professeur de PS, que les valeurs, c'est le sport plaisir. L'objectif premier de la pratique sportive, c'est le plaisir, le ressenti que l'on peut avoir, non seulement à faire, donc quelle que soit l'activité, quelle que soit l'intensité, quelles que soient les performances, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, à regarder, et aussi, pareil, quel que soit le niveau de pratique qu'on le regarde, que ce soit à la télé, que ce soit entre amis. Moi, j'ai eu des sensations extraordinaires en regardant des amis faire une course régionale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut pleurer devant ça, comme on peut pleurer devant une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça.
Très bien. Ben justement, tiens, c'est le leitmotiv de Tony Estanguet, le président du COJO, qu'on a rencontré justement à l'occasion de cette semaine olympique et paralympique, qui s'est déroulée, je l'ai dit, du 1er février au 5 février. Michel Godard nous en avait parlé, on a fait découvrir le sport à beaucoup de collégiens et d'étudiants sur des sites prestigieux du sport français, et là on est retourné à Vers-sur-Marne, le centre nautique qui servira pour les Jeux Olympiques en 2024. On a eu l'occasion d'être parmi les journalistes invités à ce centre en 2019. On y est retourné avec beaucoup de plaisir, et vous allez voir, eh bien, Tony Estanguet, il serait fier et ravi que la France devienne pour lui véritablement un pays sportif au moment des Jeux Olympiques de 2024. Tony Estanguet, cinquième étape donc de cette semaine olympique et paralympique à Vers-sur-Marne.
Oui, c'est important pour nous, cette cinquième édition de la semaine olympique et paralympique à l'école. C'est un programme qui nous tient à cœur. On a l'impression d'être dans le vrai quand on propose à cette génération 2024 de découvrir tous ces sports olympiques et paralympiques, de déployer ce message que le sport, c'est important pour leur santé, c'est important pour leur épanouissement, c'est important pour, quelque part, leur futur. Parce que c'est à cet âge-là qu'on doit prendre les bonnes habitudes, c'est à cet âge-là qu'on doit se préoccuper de sa santé. Et on est ravis de susciter des vocations. Certains jeunes n'ont jamais pratiqué le canoë ou l'aviron. Eh bien, aujourd'hui, ils vont cocher cette case-là. Et peut-être que pour certains d'entre eux, ils auront envie de continuer à pratiquer ces sports.
C'est important de le faire ici, sur un futur site olympique, de montrer aussi aux jeunes comment ça se passe, il y a des sportifs de haut niveau, etc.
C'est très important, effectivement, pour Paris 2024, de faire mieux connaître notre projet. On a cette chance, quand même, dans ce pays, d'avoir des installations assez incroyables. C'est d'ailleurs pour ça que 95% des sites qui seront utilisés pendant les Jeux sont déjà existants ou temporaires. Donc, c'est important que la population connaisse mieux ces sites. Ce sont des sites qui sont ouverts toute l'année. N'importe qui peut venir ici pratiquer l'aviron, pratiquer le canoë-kayak. Hier, j'étais à Saint-Quentin en Yvelines et on a pratiqué du VTT, du BMX sur des sites ouverts ou même au Vélodrome. Ce sont des sites qui sont déjà existants, qui n'ont pas été conçus pour Paris 2024, mais que nous allons utiliser dans le cadre de ces Jeux.
Cette semaine, elle se termine justement. Il y avait plusieurs activités au programme. Le but, c'est de sensibiliser les jeunes au sport. Vous l'avez dit, est-ce qu'il y a des chiffres justement avec le Covid notamment, là, certaines structures sportives qui restent fermées, les jeunes se sont moins inscrits?
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une réelle demande, il y a un réel besoin. On va sensibiliser, il y a 500 000 jeunes partout en France qui auront participé à cette semaine olympique et paralympique 2021. C'est beaucoup plus que l'année dernière. On sent qu'il y a, voilà, encore une fois, une dynamique est en train de s'initier. À peu près 3 000 établissements scolaires ont participé à cette semaine olympique et paralympique, avec beaucoup de projets autour du paralympisme. Ça aussi, pour nous, c'est un enseignement, c'est-à-dire que on sent que les enseignants, on sent que les élèves ont envie d'en savoir un petit peu plus sur les Jeux paralympiques, comment est-ce qu'on peut pratiquer quand on est en situation de handicap. Ce message d'inclusion, c'est aussi un message qui est très fort et qui est porté par le sport. Le sport est accessible à tout le monde, quel que soit notre origine, notre âge, notre religion. C'est un lieu de vie où on peut tisser des liens d'amitié et on oublie un peu nos différences. Et c'est très important pour nous de véhiculer ce message pendant pendant cette semaine olympique et paralympique.
Oui, parce que la France n'est pas un pays sportif, hein, Tony, vous l'avez dit, hein, on ne pratique pas suffisamment le sport, ça sera le but pour 2024.
Clairement, moi je suis convaincu qu'il y a une marge de progression, on peut développer la place du sport dans notre société. Moi je crois qu'un sport, un pays qui se tourne plus vers le sport, c'est un pays qui se préoccupe de la santé de ses habitants, de l'éducation, du lien social. Le sport c'est aussi vecteur d'emploi et d'économie, parce que dans les prochaines années on va mobiliser 5 milliards d'euros qui vont être réinjectés dans l'économie française. C'est à peu près 150 000 emplois qui vont être mobilisés dans le cadre de ces jeux. C'est aussi de belles opportunités et en ce moment on en a besoin. Donc c'est formidable de pouvoir utiliser les jeux au service de la France et de son rayonnement.
Ça sera le grand défi de 2024.
Le grand défi de 2024 pour moi c'est de trouver cet équilibre entre un événement magique, très ambitieux, parce qu'on doit faire rêver les Français, on doit montrer au monde entier que la France est un grand pays qui sait rester optimiste, enthousiaste, avec beaucoup d'ambition, mais c'est aussi laisser un héritage concret, notamment pour cette génération 2024, avec des structures sportives qui sont en capacité d'accueillir plus de sport, avec des écoles qui proposent à leurs élèves un petit peu plus de pratiques sportives.
Merci beaucoup, Tony. Merci, Tony.
Voilà pour l'interview de Tony Estanguet. Bon, le professeur de PS que vous êtes sûrement pas insensible aux propos de Tony Estanguet.
Absolument pas. Je rejoins tout à fait Tony Estanguet sur ses propos. Et puis, il en parle vraiment très très bien. Il est vrai que l'olympisme et le paralympisme, c'est quelque chose qui se développe. On en parle assez régulièrement. Et j'espère que ça sensibilise énormément les jeunes pour que qu'ils pratiquent et puis qu'ils fassent pratiquer aux autres, parce que c'est la communauté qui doit aller vers l'avant, quoi.
Voilà. Donc c'était la quatrième journée de cette cinquième édition, hein, qui est en place depuis que la France ait obtenu en 2017 l'organisation des Jeux pour 2024. Et puis vous l'aurez reconnu, hein, c'est une interview qu'on a faite en commun avec quelques confrères, hein, comme on le fait régulièrement sur les grandes épreuves, sur un Tour de France ou sur l'équipe de France de foot à Clairefontaine. Donc ça avait été fait en commun avec nos amis d'une radio locale de Seine-et-Marne, Radio Oxygène. On va écouter maintenant un des parrains de cette épreuve. Vous allez voir, c'est un bel exemple, hein, c'est Aka Valley. Alors Aka, on l'avait reçu à ce micro en septembre 2018 parce que il est atteint de diabète, mais pour lui, eh bien, ça n'est pas un handicap. Il veut continuer à vivre normalement, à faire du sport normalement. Il avait fait un véritable périple de 42 jours vélo et course à pied durant l'été 2018, et il a encore d'autres projets. Et il était le parrain, en tout cas, un des parrains de cette édition 2021 de la semaine olympique et paralympique. Et vous allez voir, c'est un enthousiasme de vie, Aka. Allez, on est content de retrouver celui qui avait été sur notre antenne, hein, en septembre 2018, Aka. Aka, bonjour. Donc tu as été le parrain de cette semaine olympique et paralympique.
C'est ça, j'ai été le parrain de cette semaine olympique et paralympique où il y avait notamment la thématique de sport santé sur le diabète de type 1, où j'ai pu sensibiliser beaucoup de personnes sur cette maladie.
Donc tu as senti des gens très réceptifs quand même à ton message.
C'est ça, il y avait beaucoup de classes sur tous les sites olympiques qui étaient réceptives, qui étaient curieuses par rapport au diabète et à la gestion du sport avec cette maladie. Et aussi beaucoup d'élus, beaucoup de sportifs qui ont été vraiment très intéressés. Et je suis vraiment super content d'avoir pu participer à cette semaine pour sensibiliser le plus de monde possible.
Oui, parce qu'il faut le dire, il faut le répéter, on peut être malade, on peut avoir un diabète, rien n'est interdit, la pratique du sport, elle est possible.
C'est ça, c'est le message le plus important, ouais. C'est que même avec un diabète de type 1, on peut faire du sport, et même à très haut niveau.
Oui, et Pierre, donc, comment tu as trouvé donc, ces messages faits pour Paris 2024, inciter les gens à faire du sport? Tony Estanguet disait que justement, la France n'était pas un pays sportif.
Alors comme disait Tony, c'est vraiment une dynamique collective, les JO 2024, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont super intéressés de participer à ces Jeux Olympiques, on a la chance de les avoir à Paris, et moi je serais vraiment très heureux et si j'avais la possibilité peut-être de faire partie de l'organisation, ou même d'être un bénévole, parce que je pense que c'est un événement très très important pour nous.
Oui, on a dit attends.
On a hâte vraiment, j'ai vraiment hâte d'y être, en plus j'aurai 20 ans, donc pourquoi pas.
Bon, c'est quoi ton prochain défi maintenant?
Alors le prochain défi, donc ça sera cet été, donc l'été 2021, où je vais faire le Tour de France en tandem avec un cycliste pro qui s'appelle Jean-Luc Pérez, et donc on va monter tous les cols des pros la veille.
D'accord. Donc tu me tiens au courant.
Je vous tiens au courant et quand vous verrez les cyclistes grimper, vous vous direz, bah, je l'ai fait la veille.
Très bien, merci Alain, bravo.
Merci beaucoup.
Sacré beau, bel optimisme de vie, hein.
Ah ouais, c'est hein, ça donne envie, hein. Non, ouais, mais ouais. Voilà, le message il est là, hein, c'est qu'il a tout compris, hein, c'est que le sport est vraiment le moyen de,
même si on a des problèmes de santé, c'est pas interdit, hein.
Oui, bien au contraire, ouais. ça permet de limiter, quoi, de dépasser un petit peu les limites qu'on pourrait se fixer même sans le savoir, parce que même nous en EPS on voit bien que souvent il y a des élèves qui sont asthmatiques, il y en a de plus en plus, et en fait plus on pratique et plus on repousse les limites de l'asthme. Donc le plus grand danger, c'est justement le sédentarisme. Il faut absolument sortir de cette idée-là. Il faut, plus on pratique et plus on se développe et plus on est aguerri et meilleur est la vie, en fait, tout simplement.
Allez, on va finir avec celui qui était un de nos invités il y a 15 jours, Michel Godard, le directeur du CREPS d'Île-de-France. On a tiré le bilan avant la fin de cette semaine et Michel Godard était un homme très, très, très satisfait.
Allez, avec Michel Godard, le directeur du CREPS d'Île-de-France. Michel, alors cette semaine, ça sera un bilan positif?
Ça sera un bilan très positif. Et je dirais que ce qui est positif, c'est de voir des étoiles dans les yeux des enfants, de tous ces jeunes sportifs. C'est ça qui est positif. L'organisation, alors je dois dire que l'organisation a été très compliquée du fait des mesures sanitaires et puis du temps aussi. Mais globalement, je pense que c'est vraiment très positif avoir tous ces jeunes qui font du sport, qui ont été sur l'eau, qui ont couru, qui ont fait du golf, qui ont fait du cyclisme, etc. C'est super.
Oui, parce que le but, hein, c'est que la France soit un pays sportif, notamment pour 2024.
Exactement. L'objectif, c'est ce qu'a rappelé Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux. C'est-à-dire que il faut utiliser le levier des Jeux Olympiques pour justement engager des pratiques sportives pour les jeunes et les moins jeunes. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. On a 3 ans pour développer le sport en France et de faire une nation sportive.
Oui, et puis avec des outils merveilleux. On a vu le vélodrome de Saint-Quentin, on voit ce site à Vers-sur-Marne. On n'a pas d'excuses pour bien travailler.
Ah ben là, quand même, je rappelle rapidement, on a commencé par le Stade de France, puis après on a été au vélodrome national, le golf national, on est à Vers-sur-Marne. Je veux dire, par là, c'est que des sites magnifiques. Que des sites magnifiques, et les installations, on les a. Alors on peut dire que globalement, il n'y a pas assez d'installations sportives en France et que ça doit être quand même un cheval de bataille, mais quand même là, celles qu'on a visitées et les jeunes qui ont pu pratiquer sur ces installations-là, c'est magnifique.
Oui. Et avec des collectivités locales qui jouent le jeu, hein, il faut le dire.
Complètement, les collectivités locales étaient présentes et les collectivités locales s'engagent. Et la région Île-de-France s'engage particulièrement sur les sites et donc on peut la remercier. Oui.
Merci Michel, à très bientôt.
Voilà pour Michel Godard, une petite réaction sur ce qu'a dit le directeur du CREPS qui avait été un de nos invités il y a 15 jours pour justement nous présenter cette semaine olympique et paralympique.
Non, il parlait des installations, c'est vrai qu'ici, bon, en Rambouillet, bien sûr, il y a vraiment de quoi faire, hein, dans la vallée de Chevreuse, mais je crois qu'après, si on veut vraiment pratiquer, on peut, quelles que soient les conditions. Quoi, il y a vraiment de... Voilà, c'est une question de volonté après. Je pense que c'est vraiment dans les mentalités qu'il faut que ça évolue, parce que les installations, elles sont là ou quasiment toutes là. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à.
Très bien, il n'y a plus qu'à. Allez, la pub, la musique, et ensuite, on va parler de votre quotidien de triathlète, et puis on aura Caroline Lagré au téléphone.
Voilà. Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnosticaupluriel.fr.
La Bassienne de Menuiserie, c'est votre spécialiste en menuiserie reconnu au Grenelle de l'environnement. Dans les Yvelines, à votre service depuis 2007. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage. Et même des garde-corps, des clôtures, des verrières d'atelier et des fenêtres de toit, entre autres. Tous nos produits sont réalisés sur mesure et fabriqués en France. Nous proposons également des prestations d'isolation sous les combles et par l'extérieur. Les devis sont toujours gratuits. N'hésitez pas à nous demander le vôtre. Toute notre équipe sera ravie de vous accueillir, de vous conseiller et de vous accompagner dans vos projets de rénovation. Abbatiane de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE. RVE. Vivez votre région. RVE sur radio-rve.com.
On poursuit donc cette émission qui sera en podcast hein, dans le courant de la journée. Alors, avec Frédéric Marie, et pas Maury. Hein, voilà, c'était un petit lapsus, mais bon, sans aucun problème. Alors, Frédéric, comment ça s'est fait, ce passage au triathlon? Parce que on fait de la course à pied, on s'entraîne sur un seul sport, et puis là, d'un coup, on se retrouve à pratiquer trois sports. Trois sports qui sont peut-être pas, j'allais dire, musculairement de la même teneur.
Peut-être musculairement, mais après le principe c'est vraiment le développement, quoi. C'est vraiment des sports aérobies,
d'endurance, quoi.
Voilà,
ouais.
Où on développe l'aérobie. Donc essentiellement il y a quand même une relation quand même qui se fait relativement bien, en fait. C'est simplement la technique qui est un petit peu différente, les muscles qui travaillent un peu différemment, mais par contre au niveau de l'entraînement, de la volonté, ça reste assez similaire. Donc c'est pour ça que ça se passe relativement bien.
Alors vous avez fait du triathlon la première fois, vous êtes monté sur un vélo, vous qui courez beaucoup, vous avez dû avoir mal aux fesses, aux muscles fessiers, ça se fait, c'est normal.
Oui, c'est normal. Oui.
Ah, c'est normal.
Alors,
bah oui.
Mais bon, c'est comme tout le monde, voilà. On va dire. Mais je faisais un peu de VTT, donc c'est pour ça que c'est peut-être eu un peu moins mal que d'autres. Mais oui, le corps s'adapte de toute manière. Donc quel que soit le changement d'activité, il s'adapte. Et bon, faut passer le cap. Mais quand on est sportif,
ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Tous ceux qui font encore de la course à pied,
évidemment.
Ce matin, qui nous écoutent ou qui font du vélo et qui veulent faire du triathlon, c'est possible.
Et non seulement c'est possible, mais j'irais même jusqu'à dire que c'est même conseillé. Le fait de changer de d'activité, non seulement
vous l'avez dit. C'est peut-être un besoin aussi. On évite une certaine routine, peut-être.
Psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de passer de l'un à l'autre. Et puis il n'y a pas ce phénomène de saturation. Et puis il y a un autre problème, quoi. Il y a un point très important, c'est le risque de blessure. C'est-à-dire que même si on se blesse, par exemple, en course à pied, on peut se faire des déchirures, on a tous connu ça. Eh bien, on peut, avec une petite déchirure, nager sans problème, avec un pool boy, on peut faire d'autres choses. Donc c'est, en fait, moi j'ai connu, comme tous les sportifs, des blessures. Il n'empêche que j'ai toujours pu faire un autre des trois sports. Un des trois sports, pardon.
Ouais.
Et donc, en fait, ça nous permet de tout le temps pratiquer, et de jamais s'arrêter. Si on veut ne pas s'arrêter, on peut continuer à
Alors,
pratiquer.
La natation, c'est souvent le point faible. Parce que, bon, c'est beaucoup d'athlètes qui passent au triathlon, beaucoup de cyclistes qui passent au triathlon. Il y a peu de nageurs qui font ce sens-là. C'est difficile, c'est le point. C'est un sport technique, c'est aussi, c'est pas facile, quoi.
Ben, c'est un sport de glisse.
Quand
on commence la natation tard, on n'y arrivera jamais. On sera jamais nageur.
Ça, c'est
une évidence.
C'est le problème, ça.
C'est un vrai problème. Alors c'est un problème oui et non, parce que bon, on en parlait tout à l'heure, c'est le sport, c'est pas forcément que la performance.
On compense.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le triathlon, il y a tellement de formats de courses. Plus on est sur des petites distances ou le sprint, là, il est important d'être très bon nageur. Et plus on augmente les distances, et plus le vélo et la course à pied ont leur importance. Et donc, minimise l'effet de la natation. Donc, même si on prend du retard un peu en natation, on a largement de quoi compenser par la suite. Donc, selon les formats, c'est ça l'avantage, c'est qu'on trouve ce qui nous convient. Voilà. Donc, même si on n'est pas très bon nageur, bon, faut savoir nager, évidemment. Mais même si on n'est pas très bon nageur, on peut s'en sortir.
Alors, justement, est-ce qu'on travaille pas en priorité ses points faibles? C'est-à-dire, lorsqu'on se dit, tiens, la course à pied, ça va, le vélo, c'est pas trop mal non plus, je vais travailler davantage la natation.
Alors, c'est un dilemme, ça, tout le monde en parle. Moi, mon point de vue, c'est non.
Non?
Non.
D'accord.
Non, il faut compenser, il faut que ce soit acceptable, mais après, on pourra jamais rattraper le retard. C'est une évidence. Par contre, ces points forts, on les connaît, on peut accentuer là-dessus, c'est moi qui fais du bruit. Et puis, pour moi, il faut rester sur ce que l'on sait vraiment faire, c'est les préférences motrices, on pourrait dire, et il faut rester là-dessus. Donc il faut pas que ce soit un handicap, mais il faut pas chercher à ce que si on n'est pas nageur, qu'on soit nageur, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'efforts, et après, ce que l'on va gagner d'un côté, on va vraiment le perdre de l'autre. Donc c'est pas rentable pour moi.
Alors, Frédéric, vous pratiquez la natation à la piscine d'Orsay, c'est le seul endroit pratiquement où on peut le travailler correctement?
Ah non, il y a pas les eaux,
il y a Massy. Mais d'accord, moi, vous n'êtes pas attaché à Orsay, quoi.
Il y avait les Ulysses, mais là c'est fermé depuis un petit bout de temps.
Oui, c'est vrai.
Mais sinon je vais à Orsay.
Combien de kilomètres?
Alors, en ce moment, j'en fais pas beaucoup, mais d'habitude, je fais à peu près, je suis pas nageur, hein, donc je fais deux.
Comme beaucoup.
Voilà, je fais deux séances par semaine en moyenne, voilà, deux séances
c'est
par semaine.
C'est-à-dire une heure et demie, deux heures?
À peu près une heure et demie, voilà, grand maxi, donc ça fait pas beaucoup de natation, et au final, ça fait quoi? Ça fait, ça c'est en moyenne, hein, à peu près, on va dire, 5-6 kilomètres, voilà, par semaine de natation.
Combien de vélos?
Alors le vélo, ça dépend aussi de la période de l'année.
Eh oui, hein, oui, là, c'est plus compliqué là.
L'hiver, on en fait un petit peu moins, bien que maintenant avec les home trainers et puis les applications, donc c'est quand même beaucoup plus pratique et puis c'est beaucoup plus ludique.
Ouais.
Mais sinon, j'essaie d'en faire à peu près 2 ou 3 par semaine et puis à peu près pareil en course à pied.
C'est-à-dire, ça fait combien de kilomètres? 2 ou 3, c'est des séances de 2 heures, 3 heures de vélo.
C'est, alors pareil, c'est faut que ça soit jamais la même chose.
Non, parce que le vélo, c'est un sport qui est long. Hein. Ah, une heure, ça sert pas. À grand chose, le vélo.
Eh bien, ça,
voyez, une heure tout, de course à pied, c'est différent.
Oui, mais c'est ça. Encore, tout est relatif, hein, parce qu'il y a parfois des périodes où il faut récupérer, il faut tourner les jambes. Et c'est pas la peine de faire 3 heures. Si le corps a besoin de faire 1 heure, il faut faire 1 heure. Et puis, on a un âge où il faut gérer un petit peu tout ça. On en a plus 20 ans. Et donc, parfois, 1 heure de vélo me suffisent largement. Et c'est même plus bénéfique que de faire 3 heures et arriver éreinté et avoir 3 jours de récupération derrière qui ne s'avèrent en rien.
Donc, on parlait des bienfaits du sport, ça veut dire que pratiquement, vous faites du sport tous les jours.
Oui, j'essaye, oui.
Ah, on alterne entre...
6 fois par semaine, oui. Et après, ça va monter un petit peu avec les beaux jours et l'arrivée des compétitions. Mais voilà, l'hiver, j'essaie d'entretenir à peu près 6 fois par semaine.
Mmh. Alors, justement, il y a beaucoup de triathlons, il y a plusieurs niveaux. Nous, on se rappelle avoir couvert et suivi en tant que journaliste un triathlon de niveau A sur Rambouillet il y a très longtemps. Il y a le promo triathlon qui est organisé par nos amis de Rambouillet Olympique, même s'il est en stand-by depuis 4-5 ans à cause donc de la défection de la piscine. Vous, à quelle sorte de triathlon vous participez?
Moi, actuellement, je fais du Xterra, donc c'est du cross triathlon, ce qu'ils appellent.
C'est-à-dire, ouais.
En fait, c'est toujours, moi, je fais le format, c'est du M, donc c'est le format olympique, donc c'est 1500 de natation.
Ah ouais.
C'est 40 km de VTT, c'est la particularité, et 10 km de trail.
D'accord.
Okay. C'est de VTT trail.
D'accord.
Contrairement à route et route, en fait. Course à pied sur route.
D'accord. On choisit ses propres épreuves ou on est spécialisé ou on peut.
On choisit.
Il y a des catégories quand même. Vous ne pouvez pas participer à un triathlon A, si?
Alors, en fait, si, tout à fait. Alors après, il y a les championnats en club. Il y a des divisions et donc il y a une équipe d'engagés par le club en fonction de leur performance. Mais sinon, toutes les autres épreuves, on s'inscrit de manière très libre.
D'accord.
Donc, même les championnats de France, on s'inscrit dans notre catégorie. Donc les catégories en fonction de l'âge. Donc moi, je suis en master. Hein, il est plus de 50 ans. Les masters, c'est à partir de 40 ans, et puis tous les 5 ans, on a une catégorie. Donc c'est ça l'avantage, c'est que il y a plein d'activités, plein de disciplines dans le triathlon. Et puis après, il y a toutes les catégories, donc on trouve obligatoirement notre bonheur.
D'accord, Frédéric, on va reparler. Je vous avais promis donc la parité, hein, ce jour Saint-Valentin. C'est Caroline Lagré qui est avec nous. Caroline, bonjour.
Oui, bonjour.
Ah, ça fait plaisir de revoir Caroline. On s'est beaucoup côtoyé lorsqu'elle était une athlète de haut niveau pour le roller. Vous pouvez rappeler votre passé, Caroline, bonjour.
Oui, écoutez, c'est un petit peu loin, mais non, je me rappelle bien sûr de cette période. Écoutez, j'ai une cinquantaine de titres de championne de France, 2 fois championne d'Europe, et puis au championnat du monde... ma meilleure performance en individuel, c'était 4e et 3e par équipe.
Voilà, effectivement. Donc, ça a été une carrière d'athlète de haut niveau à laquelle vous avez mis fin en 2005. Hein.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Ouais. Pourquoi vous aviez atteint ce qu'il fallait atteindre?
Non, parce que mon but final, c'était d'être championne du monde.
Oui.
Malheureusement, j'ai pas réussi à l'être. Et puis, vous savez, en 2005, je commençais, disons que j'avais déjà 34 ans. Donc, c'est vrai que les performances stagnaient, en fait. Hein. Ça fait déjà 2-3 ans que je voyais bien que j'arrivais plus à progresser. Donc, à un moment donné, faut savoir mettre une fin. Hein.
Oui.
Donc voilà. Et puis après, j'avais aussi d'autres projets à ce moment-là d'avoir des enfants. Donc du coup, ça m'a influencé pour m'arrêter là.
Voilà. Alors vous avez stoppé cette carrière de sportif de haut niveau. Et puis vous avez repris quelques années plus tard le sport à travers le triathlon. Pourquoi?
Oui, tout à fait. Déjà quand je faisais du roller, je m'étais toujours dit, je regardais un petit peu le triathlon et c'est vrai que ça m'attirait parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma carrière de roller, en fait, l'hiver, je faisais je faisais beaucoup de vélo.
Oui, bah, bien sûr. C'est des points communs. Ouais, la façon de courir, tout ça.
Ouais, pour engranger les kilomètres, je faisais beaucoup de vélo, je faisais beaucoup de courses à pied aussi. Et puis, bah, quand j'étais petite, je passais mes étés en Vendée chez mes grands-parents et je nageais beaucoup avec mes grands-parents. Bon, ça, c'était pas une. Enfin, j'aimais beaucoup nager. J'étais pas forcément performante, mais j'adorais nager. Du coup, je m'étais dit, le triathlon, ça devrait me convenir. Mmh. Et puis, écoutez, c'est vrai que même après mes grossesses, j'ai réessayé j'ai repris le roller, mais en fait, je retrouvais pas les sensations voulues. Du coup, j'ai dit, je me lance dans quelque chose de nouveau et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je me suis lancée dans le triathlon.
Trois sports quand même compliqués, difficiles. Et il a fallu combien de temps pour être vraiment bien ?
Moi, en fait, j'ai fait vraiment. Enfin, j'ai commencé le triathlon en fait par les formats les plus petits, le format S. Mmh. Et puis j'y suis vraiment allée progressivement. Après j'ai fait du M et puis disons que je me suis quand même j'ai trouvé que je m'y suis mise quand même assez rapidement parce que comme c'est déjà des disciplines que je faisais auparavant, c'est vrai que j'ai pas eu de trop grandes difficultés à m'y mettre j'ai fait un Ironman en 2018 à Francfort.
Ouf. Ouais.
Disons que on va dire ouais, j'ai mis 4-5 ans pour me trouver bien et faire le
Ironman. Oui, alors on en parlait avec Frédéric Marie, hein, notre invité qui est en studio, qui est d'Orsay, qui vous salue d'ailleurs. Hein,
oui, tout à fait. Oui, moi aussi, je salue aussi.
Vous êtes présente des temps maintenant. Alors, vous voyez, vous allez peut-être.
On sera amené à se rencontrer un jour ou autre.
Vous croisez.
Oui, ça serait bien.
Les compétitions vont reprendre.
Ouais. Hein.
Et oui,
c'est vrai,
voilà.
Ouais. Et c'est vrai que le fait d'avoir, on en parlait avec Frédéric, que le fait de se faire du sport à haut niveau, on se connaît, on connaît son corps, donc ça aide peut-être plus facilement.
Ah bah oui, moi je sais complètement me gérer mon effort, ça c'est sûr. Mmh. Je me connais très bien et je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidé pour faire l'Ironman.
Mmh. Mmh. Donc on va rappeler les distances qu'on court dans une telle épreuve.
Ironman,
c'est pour le grand public. Moi je le sais, mais c'est pour le grand public quoi.
Pour grand public, oui. Ouais. Que je me trompe pas, c'est 3,8, oui, c'est ouais. Ça. J'avais un petit doute sur la natation. Oui, c'est ouais. 3,8 km.
Ouais.
Alors après, normalement, en vélo, c'est 180 et nous, on a fait 185 parce qu'il y avait une petite zone de travaux. Du coup, ils nous ont rallongé le parcours.
Ouais, ouais.
Et puis, on termine par un marathon 42,195. Mmh. Voilà.
Alors, ouais, alors, comment on trouve le temps de s'entraîner? Parce que, il faut chaque soir, chaque jour, travailler un sport différent.
Oui. Ouais. Oui, moi, j'ai la chance, si vous voulez, d'avoir un métier où, en fait, j'ai une grande autonomie dans l'organisation de mon travail. Mmh. Je prenais le temps de m'entraîner et puis après, au niveau de mon travail, s'il fallait que je bosse le soir, je pouvais travailler le soir. Ça posait pas de problème quoi. Et puis dès qu'on arrivait au beau jour, quand on va dire il fait jour de bonheur, dès 6h du matin, j'étais sur mon vélo. Et puis pour faire 4-5 heures de vélo et après j'enchaînais par le travail.
Et vous nagez où quand on habite près des Tempes?
À la piscine des Tempes.
Oui, d'accord. Il y a une piscine.
On avait juste un créneau un soir par semaine. Comme mon bureau il est sur Évry, je vais nager de temps en temps à la piscine de Corbeil. Je nageais un peu là où je me trouvais par rapport à mon boulot. J'ai nagé aussi à la piscine de la Norville, à la piscine de Broyet. Voilà, je j'allais dans les piscines là où j'étais par rapport à mon boulot, quoi.
D'accord, Frédéric.
Oui, ben, c'est ça la difficulté de, quand on prépare un Ironman, c'est de jouer sur les trois paramètres, c'est l'entraînement, la famille, le côté social et puis le travail. Il faut combiner tout ça de meilleure façon possible, mais c'est un équilibre à avoir pour trouver le temps pour s'entraîner, parce qu'il faut bêtement passer du temps sur le vélo, sur la natation et en course à pied.
Bon, la meilleure performance, Caroline, c'est quoi? Le meilleur résultat?
De quoi, en triathlon?
Oui, bien sûr.
J'ai fait quelques podiums, mais sur des petits, on va dire sur des triathlons locales, en Ile-de-France, où j'ai réussi dans ma catégorie, parce que bon, bah maintenant je suis des vétérans, hein.
Comme Frédéric, donc, même catégorie.
Tout à fait.
Hein, mais c'est pas pour moi,
parce que je vais avoir 50 ans, hein, donc ça commence à faire, donc j'ai réussi à faire quelques podiums, hein. J'ai pas gagné, mais j'ai quelques places de deuxième ou troisième, bon, sur des petits triathlons, hein. De toute façon, malheureusement, ma performance, elle est plus derrière moi, hein.
Oui, mais bon, ça fait combien de triathlons à l'année que vous courez, en moyenne, dans une saison?
Alors, écoutez, j'en fais pas beaucoup.
Oui, il faut récupérer.
Parce que, alors, malheureusement, à ma grande déception, c'est que ça coûte très cher. Je vous avouerai que moi, je suis un peu déçue par le coût des inscriptions. Du coup, on va dire en temps normal, je faisais 6 triathlons par an, à peu près.
D'accord.
Voilà.
Bon, parce que, une paire de baskets, ça coûte pas cher. Un maillot de bain, ça coûte pas cher. Bon, le vélo, ça coûte un peu plus cher, quand même, hein.
Quand vous voyez, pour l'Ironman, non, 600 euros d'inscription.
Ouais, d'accord.
C'est ça.
Ça pique, ça.
Ouais, ça pique. Frédéric, c'est un sport qui est cher, le triathlon. La licence, c'est combien?
C'est 250, entre 200 et 250 à peu près.
D'accord.
Même 180 les premiers clubs.
Ouais. Alors après, il y a les déplacements, effectivement. Il faut les déplacer.
Mais comme disait
Caroline,
effectivement, ça coûte excessivement cher, parce que si on en fait les Ironman, c'est 500 euros, voire 600 euros, les déplacements, et puis on est sûr que pour une compétition comme celle-ci, on vient au moins la veille, donc il y a au moins deux jours d'hôtel quasiment. Ouais. Donc c'est un vrai budget. Donc ça, c'est une compétition. Donc imaginez, on va pas faire ça tous les week-ends, évidemment, mais on peut cumuler ça avec d'autres compétitions. Si on cherche un peu les championnats, etc., il faut qu'on se déplace. Mm-hmm. Donc effectivement, ça coûte au final, à l'année, c'est un certain budget. D'autant que le vélo, c'est un appareil qui coûte cher. Et quoi qu'on en dise, la qualité du vélo a une incidence sur la performance.
Bien sûr. Voilà. Frédéric, vous, combien de courses par an?
Alors,
combien de triathlons par an?
Alors, j'en fais pas tant que ça, contre, j'aime bien les préparer.
Oui.
J'aime bien les compétitions importantes. J'aime bien les Jeux de France. J'aime bien les choses comme ça.
Oui, parce qu'on va rappeler. C'est quoi vos résultats, votre meilleur résultat? J'ai demandé à Caroline, mais pour vous aussi.
j'ai fait 4 Ironman, mais c'est parce qu'on on a attiré par ça quand on commence le triathlon. C'est assez paradoxal. On cherche le XXL, et c'est pas forcément le plus difficile à atteindre, le faire un Ironman. Ça peut être impressionnant pour quelqu'un de l'extérieur.
Ah oui, mais quand même.
Mais il n'empêche que c'est largement faisable. Moi, je me suis orienté un peu sur le XTERRA, donc sur le VTT, et donc j'ai eu la qualification en 2018 pour aller au championnat du monde à Maui.
Voilà. Oui, oui. Bon, ça, c'est le meilleur.
On va dire que c'est la meilleure
performance. C'est le plus beau rêve, ça vous a emmené à voyager. Voilà. Alors, Caroline, le prochain rêve de triathlon pour vous, c'est quoi?
Écoutez, cette année, je me suis inscrite sur le Lapsman. Alors pas le extrême, mais je me suis inscrite sur l'Alf déjà pour commencer.
Oui.
Mais bon, en espérant qu'il aura bien lieu, parce que c'est le 5 juin.
Oui, c'est où? C'est où pour
Donc c'est à Annecy.
D'accord. Ah oui, belle ville.
Donc voilà. Donc là, c'est la moitié, hein, d'un Ironman. Enfin, un petit peu plus, parce que le vélo, c'est 100 km. Mais disons que comme il y a à peu près 2500 mètres de dénivelé sur le parcours vélo, ça va être quand même un effort assez long.
Mmh.
Donc j'ai prévu ça cette année, mais bon, sans être sûr de pouvoir le faire. Et puis peut-être que dans 2 ans, 2-3 ans, je ferai l'extrême. D'accord. Donc c'est comme un Ironman, hein, sauf que là, Annecy, bon, ils ont pas le label. Mm-hmm. Mais du coup, ça coûte moins cher, du coup. Mm-hmm. c'est ça qui est intéressant.
Et vous, Frédéric, il y a un rêve secret?
Ah oui, mais
vous qui avez des années de pratique, je suppose qu'il y a encore des compétitions auxquelles on voudrait participer, puis oui, on n'a pas l'occasion de faire.
Oui, bien sûr, j'ai un rêve, parce que sinon, moi, je suis assez compétiteur, donc il y a que la compétition qui m'attire dans le sport. Et 2022, ça sera, j'espère, mon année, parce que je change de catégorie, oui, puis ouais. Je me prépare. Puis j'y suis allé, donc comme je disais, à Maui là en 2018, et j'y suis allé avec les moyens du bord, avec la forme du jour, et j'étais un peu blessé, donc c'était pas. Donc j'ai découvert ça, j'ai adoré, j'ai passé 15 jours extraordinaires, et puis des vacances et en plus du sport, c'était extraordinaire. Et j'aimerais bien y retourner en 2022 pour essayer de faire quelque chose, parce que c'est très prétentieux, mais c'est un objectif, arriver sur des championnats du monde en étant au top de sa forme. Voilà,
c'est ça le summum.
Exactement.
Hein.
Voilà.
Bon, bah, Caroline, en tout cas, merci. Hein, voyez,
merci, ça m'a fait plaisir de vous retrouver.
Voilà, le hasard ferait bien les choses. Et puis, quand vous verrez Frédéric, Marie, vous pourrez parler de.
Oui, il faut que je note son nom pour comme ça.
Il est du club d'Orsay. Hein, voilà, il est du club d'Orsay. Oui. Et puis, Caroline, elle est présidente des Temples. Voilà.
D'accord. Ouais, moi, je suis la présidente du club des Temples. Voilà, tout petit club. Hein. Voilà, mais.
Je m'en souviendrai. Ouais. Hein.
Mais bon, ça prouve que c'est un sport qui attire quand même les jeunes.
Oui, le club maintenant, il y a des. Ils ont tous une école qui commence à partir de 8 ans, donc les clubs de jeunes.
Ah, 8 ans maintenant?
Ah oui, ça commence très tôt maintenant.
L'initiation, c'est pas trop quand même.
Parce que c'est la découverte, et puis ils apprennent à nager, ils apprennent à faire du vélo. C'est du vélo du VTT, hein, qu'ils font, c'est la manipulation, et puis la course à pied à 8 ans, ça commence à.
Oui, moi, vous savez, mes filles, je les ai initiées un petit peu, elles ont fait 2-3 triathlons, voilà.
Très bien. Bon, c'est bien. Merci, Caroline. Et puis, bonne vacances.
Merci à vous.
Je
suis ravie.
Voilà. Hein. Oui. Et puis, à très bientôt, en tout cas.
Merci. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Hein.
Merci, plaisir, Caroline. Voilà. Voyez,
merci. Voyez, bon dimanche.
Ouais, bon dimanche.
Au revoir.
Au revoir. Voilà. Voyez, c'est ça le charme de la radio. On marque la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale, Frédéric. Et puis, on va ensuite conclure cette émission bien remplie ce matin. On y va.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Batipro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Batipro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans. Confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Batipro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur batipro-france.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
RVE, c'est aussi sur internet, radio-rve.com.
Radio-rve.com.
J'aime ta couleur café.
tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Et le sport dans votre région avec RVE.
Bon, Frédéric, on met combien pour récupérer d'un triathlon? On en parlait là avec Caroline Lagrée, et puis vous faites pas beaucoup d'épreuves dans l'année, vous en faites 6, vous l'avez dit, en moyenne. Donc ça veut dire que ça oblige à un temps de récupération important, c'est nécessaire?
Alors tout dépend bien sûr le triathlon que l'on fait, donc en 1M, donc en moyenne distance. Et puis ça dépend aussi de notre niveau d'entraînement. Quelqu'un qui s'entraîne très peu et qui fait un effort violent, il va mettre beaucoup plus de temps. Et quelqu'un qui s'entraîne quotidiennement, voire bi-quotidiennement, il va récupérer en 3-4 jours. Moi personnellement, il me faut sur un M, je pense qu'il me faut au moins une semaine, voire 10 jours pour que j'ai bien récupéré physiquement et puis surtout psychologiquement, parce que l'effort violent.
C'est ça. C'est surtout parce que ça. Oui, des fois on se fait très mal. Hein. Il faut apprendre à gérer cette douleur justement. Bah, c'est le but du sport aussi.
Hein. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Ouais, c'est qu'ils font, quel que soit le sport d'ailleurs, hein, il faut se donner au maximum pour si on cherche sa performance. Et après, il faut la digérer, il faut la récupérer, puis il faut se remotiver pour la suite. Donc il faut du temps. Il faut du temps au temps.
Voilà. Bon, il faut une discipline de vie. Alors, ça c'est pour ceux qui veulent en faire. C'est nécessaire de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit.
Je suis pas un bon exemple.
C'est bien.
Je suis pas un bon exemple. Ouais. Effectivement, l'hygiène de vie est importante pour la performance. Ouais. C'est une évidence. Mais après, il faut se faire plaisir. Moi, c'est avant tout le plaisir.
C'est important aussi psychologiquement. Hein.
Exactement.
Donc, ouais. Après, il faut le faire à bon escient. Il faut savoir le faire.
J'aime bien. Oui, il y a des périodes où en pré-compétition, on a une charge d'entraînement importante et là il faut être assez rigoureux sur le sommeil, sur l'alimentation, sur ce que l'on boit, etc. Mais après, il y a des moments où on se lâche. Et je vous garantis que je me lâche parfois.
C'est bien. Et puis le poids est important aussi, hein, surtout en période d'hiver.
Bah, le poids, vous avez dit.
Oui.
Le poids, c'est naturel. Hein. Si plus vous pensez qu'à vous entraîner, et vous verrez qu'on perd naturellement. Faut pas chercher à toute forme de régime. Moi, je suis catégoriquement contre. Voilà.
Oui.
Normalement, c'est la nature est bien faite là-dessus.
D'accord.
Si on s'entraîne correctement et qu'on mange correctement.
C'est pas une obsession, quoi.
Ah non, surtout pas. Surtout pas. Et puis après, que ce soit en natation, vous allez vous dire, si vous avez vu un peu des triathlons, il y a des différents gabarits, c'est impressionnant. Hein. Il y a des femmes comme des hommes en natation qui sont un peu forts, qui sont donc bons en natation, bons en vélo, un peu plus durs en course à pied, mais au final, ils font des performances remarquables par rapport à quelqu'un qui est beaucoup plus frêle et qui a pas de puissance ni en vélo et qui tire pas bien en natation. Et donc, il tire son épingle de jeu un peu en course à pied, mais au final, il peut être derrière. Donc, on a notre nature et il faut l'écouter.
Très bien, merci Frédéric, merci Marie. Dernier petit mot, on peut rejoindre le club d'Orsay sans problème, même si c'est en stand-by actuellement.
Alors, Ben, on pourrait, parce que je crois que c'est limité. Ils ont une capacité d'accueil de 220 ou 250 adhérents et on est complet tous les ans. Donc c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a des créneaux horaires limités pour la piscine et donc ils peuvent pas accueillir tout le monde. Ouais. Donc c'est assez, ils sont contraints de limiter le nombre d'adhérents. Et je crois que c'est 220 ou 250 et tous les ans on est complet. Ah, mais par contre, il n'empêche qu'il y a un turnover. Hein, donc
d'accord.
Tous les ans, il faut leur demander.
Tentez votre chance à la rentrée. Exactement. Au mois de septembre, c'est pas un problème. Merci Frédéric Marie. Bon retour du côté de Nîmes.
Merci à vous.
Où on nous reçoit très bien sur RVE. Merci à Guillaume d'avoir été une nouvelle fois très brillant entre les interviews, les téléphones. Tout s'est bien passé. On se retrouve la semaine prochaine. Restez-nous fidèles. Hein. Tiens, la semaine prochaine, on aura encore des Estoniens à ce micro. On parlera de motocross. Et puis, on aura Solène Baudard, qui est une coach sportive, qui viendra donc sur notre antenne pousser un petit coup de gueule. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.
Avec Philippe Carnu. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Donald Trump a été acquitté lors de son procès en destitution. L'ancien président était accusé d'avoir attisé la révolte lors de l'attaque du Capitole qui s'est déroulée début janvier. 57 sénateurs ont voté pour sa condamnation, mais il fallait 67 voix. Joe Biden a indiqué que malgré l'acquittement, le fond de l'accusation n'était pas contesté. Il appelle les Américains à défendre la démocratie qui reste fragile. Pas de fin de pandémie sans accès équitable au vaccin. C'est ce qu'ont indiqué des experts hier. Dans une lettre ouverte publiée dans la revue The Lancet, ils sont plusieurs à expliquer que l'accumulation des doses de vaccins dans les pays les plus riches risque de prolonger la crise.